Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno, rencontre ministre autrichien des Affaires étrangères et discute du renforcement des relations économiques. Japon fournit du matériel médical et des voitures pour les unités de dons de sang à Manggarai, Nusa Tenggara Oriental. Ambassadeur Ahmad a officiellement inauguré l'Indonesia Halal Expo 2024 à Brunei. BIG encourage la collaboration pour répondre aux défis de la carte des fonds marins de l'Indonésie. PDN va certainement renforcer son architecture de cybersécurité suite à l'incident PDNS2. Vice-président soutient les épices en aval afin qu'elles aient un impact sur le pays. Gouvernement empêche la détérioration de l'industrie textile. Pour changer de terre, voici les nouvelles en complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu mardi 25 juin une réunion bilatérale avec le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, à Vienne et a discuté de plusieurs questions, notamment concernant le renforcement des relations économiques entre les deux pays. La ministre des Affaires étrangères, Retno, selon les informations du ministère indonésien des Affaires étrangères reçues à Jakarta mercredi 26 juin a déclaré que cette année, les deux pays commémoraient 70 ans de relations diplomatiques. Les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté du renforcement des relations économiques dans le secteur commercial. La ministre Retno a déclaré que l'Autriche était l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie en Europe centrale. La valeur des échanges commerciaux entre les deux pays continue d'augmenter d'année en année. L'année dernière, par exemple, la valeur commerciale de l'Indonésie a atteint près de 500 millions de dollars américains, soit environ 8,21 billions de roupies, soit une augmentation de 9,8% par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, les deux pays ont également convenu que les négociations sur l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne, CEPA EUE pourraient être achevées immédiatement car elles sont considérées comme étant en mesure de renforcer les relations commerciales d'investissement entre l'Indonésie et l'Autriche. À cette occasion, la ministre Retnon a également invité l'Autriche à participer au deuxième forum des affaires Indonésie-Europe à Jakarta qui se tiendra en octobre prochain. Le gouvernement japonais, par le biais du programme Grassroots Grand Assistance for Human Security, a organisé avec succès une cérémonie de passation de pouvoir pour un projet vital pour la santé de la population de la région de Manggarai dans Nusa Tenggara orientale. Dans une déclaration reçue par Voice of Indonesia mercredi 26 juin, à Jakarta, le chef du Croix-Rouge indonésien PMI Manggarai, Hieronymus Ambrosius Kaunang, a admis qu'il avait vraiment besoin d'unités de dons de sang et de matériel médical. Il a déclaré que les unités mobiles de dons de sang et les nouveaux équipements médicaux pourraient augmenter considérablement le nombre de donneurs de sang et fournir des produits sanguins de meilleure qualité aux patients qui en ont besoin. Cette unité mobile de don de sang a permis à PMI Manggarai d'atteindre plus de 500 donneurs de sang bénévoles en seulement un an depuis qu'elle a commencé à fonctionner en mai 2023. Grâce à des équipements médicaux modernes, la production et le stockage de produits sanguins tels que le plasma et les plaquettes peuvent également être plus efficaces, accélérant ainsi le processus de transfusion sanguine pour environ 500 patients chaque année. Le projet initié par le gouvernement japonais et signé en décembre 2022. Constitue une étape concrète pour accroître l'accès à des transfusions sanguines sûres et efficaces dans la région. L'ambassadeur d'Indonésie au Brunei Darussalam, Ahmad Ubaidillah, a officiellement inauguré mercredi l'exposition des produits halal indonésiens 2024. Indonesia Halal Expo, qui a eu lieu mercredi au Centre international de congrès ICC à Bandar Seri Begawan au Brunei Darussalam. En guise de soutien au MPME et à l'industrie halal indonésienne, l'ambassade indonésienne à Bandar Seri Begawan organise l'Indonésie Halal Expo 2024 en réunissant 20 participants indonésiens. Son Excellence Pengiran Muhammad Amirizal bin Pengiran Haji Mahmoud, secrétaire permanent du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Brunei Darussalam, était l'invité d'honneur de l'événement. L'ambassadeur Ahmad, dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Bandar Seri Begawan à Jakarta, a déclaré mercredi qu'il espérait que cette année, l'Indonésie et Brunei pourraient revenir à la tendance à l'augmentation du commerce bilatéral, en particulier après cette exposition. L'ambassadeur Ahmad espère que l'exposition halal pourra susciter l'intérêt des investisseurs brunéens à investir dans l'industrie halal en Indonésie et que les touristes brunéens obtiendront davantage d'informations sur les destinations musulmanes en Indonésie. Lors de l'exposition halal, divers produits tels que de la nourriture et des boissons, des médicaments, des cosmétiques, des vêtements musulmans et des destinations touristiques musulmanes en Indonésie ont été exposés. L'Association des entreprises indonésiennes du Brunei, Indonesia Business Chamber, IBC, et l'Organisation sociale Indonesian Community Association in Brunei Darussalam, PARMAI, ont également participé à l'exposition. L'agence d'information géospatiale BIG encourage la collaboration multisectorielle pour répondre aux défis de la cartographie de base dans les vastes zones maritimes et côtières d'Indonésie. Le député du Grand chargé des informations géospatiales de base, Mohamed Arif Shafi'i, à Garut, dans Java occidentale, a déclaré mercredi que les coûts élevés liés à la cartographie de l'ensemble de la vaste mer et des zones côtières de l'Indonésie constituaient un défi pour atteindre l'objectif de cartographie du gouvernement. Big a noté que les zones maritimes et côtières de l'Indonésie ont une superficie de 6,4 millions de kilomètres carrés, soit 77% des 8,6 millions de kilomètres carrés de la superficie totale du pays. La cartographie de toutes ces zones a été réalisée par une équipe d'experts Big pour des cartes de taille moyenne à l'échelle de 1 sur 250 000, au moins d'ici 2024. L'Indonésie aura réalisé la disponibilité de données de mesures sous-marines à grande échelle atteignant 4 955 km. Cependant, selon Shafi'i, le besoin de cartes plus détaillées à plus grande échelle, 1 sur 5 000, n'est que d'environ 3%, notamment dans plusieurs sections, principalement dans les zones maritimes côtières de l'île de Java. Il a révélé que le montant réalisé n'était toujours pas proche de l'objectif du gouvernement. Dans le plan national de développement à moyen terme, RPJMN, pour 225 et 245, au moins 15% de la superficie totale de la mer et des zones côtières de l'Indonésie peuvent être cartographiées. Le vice-ministre de la Communication et de l'Information, Nezar Patria, a confirmé que le Centre national de données, PDN, en cours de construction à Tikaran dans Java occidental, disposera d'une architecture de cybersécurité qui sera encore renforcée par la réflexion sur la cyberattaque. L'incident du Centre national de données temporaires PDNS de Nezar à Jakarta mercredi a déclaré que dès le début, le PDN avait été construit avec une architecture de cybersécurité utilisant la gestion du centre de données qui répond bien sûr aux normes de classe mondiale. En outre, Nezar a souligné que la construction du PDN n'a pas été retardée par l'incident du PDNS 2 et qu'elle sera certainement achevée en 2024. PDN Tikaran a été fondé avec un programme de financement GAG avec l'aide du gouvernement français avec un financement de plus de 164 millions d'euros, soit l'équivalent de 2,7 billions de roupies. Le plan est que le PDN Tikaran dans l'ouest de Java soit achevé lors de la célébration du jour de l'indépendance de l'Indonésie le 17 août 2024 et soit inauguré directement par le président Joko Widodo. Le vice-président indonésien Maruf Amin a déclaré que l'Indonésie possède une variété de richesses naturelles dont les épices qui peuvent devenir un produit de base étant donné que l'intérêt du marché mondial pour les épices est assez élevé. C'est pour cette raison que le vice-président encourage la transformation en aval des épices avant leur vente sur le marché. Citant des informations du bureau de presse du secrétariat du vice-président, le vice-président a fait cette déclaration lors de sa réception mercredi par les dirigeants du mouvement indonésien des épices et de la communauté Gemari à sa résidence officielle à Jakarta. Selon le vice-président, si les épices en aval peuvent être réalisées, cela aura un impact positif sur le pays, car ceux qui en bénéficieront sont les agriculteurs de produits alimentaires et d'épices dont l'aval direct apportera une valeur ajoutée à leurs produits. On dit que la FAL fera de l'Indonésie un pays prospère. En dehors de cela, le vice-président a également demandé aux producteurs de produits alimentaires et d'épices de rejoindre le programme des sociétés agricoles qui vise à encourager les agriculteurs à devenir plus indépendants, compétitifs et durables grâce à une formation complète pour les agriculteurs. À la même occasion, Siti Nour Aziza Marouf, PDG de Gemari, a déclaré que Gemari, qui fait actuellement partie de l'Association indonésienne de la communauté alimentaire et des épices, organiserait prochainement, en août, un événement soulignant la supériorité des épices indonésiennes. Le président de l'Association indonésienne des producteurs de fils et des fibres de filament, Redma Gita Wiraswasta, a apprécié la nouvelle politique du gouvernement visant à empêcher le déclin de l'industrie textile. Selon Redma, les réglementations sur les droits d'importation de sauvegarder et les droits d'importation anti-dumping sont très nécessaires. Cette politique aurait dû être mise en œuvre depuis longtemps pour protéger l'industrie textile. Redma, dans une conversation avec Pro 3 RRI, mercredi 26 juin 2024, a déclaré que le gouvernement doit agir immédiatement car les retards dans la mise en œuvre ont un impact négatif sur l'industrie textile. Il a également révélé que ce retard avait fait perdre leur emploi à de nombreux travailleurs. Redma a également souligné l'importance de cette réglementation pour protéger le marché local. Redma a souligné que cette politique est importante pour concurrencer les produits importés moins chers. Bonjour, je vais tarder tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Bonsoir, voici l'accueil diplomatique et en pour le titre, l'ambassade d'Indonésie à Helsinki présente la diversité culturelle à travers des festivals en Finlande. L'ambassade de la République d'Indonésie à Helsinki, soutenue par la communauté de la diaspora indonésienne, introduit une variété de cultures indonésiennes dans les pays nordiques, en particulier en Finlande, à travers le Festival d'Indonésie et de Finlande, IFF, 2024 à la Lasipalatsiaan, Tokyo, Helsinki. L'IFF est un événement annuel qui a lieu chaque début d'été. L'ambassadrice d'Indonésie en Finlande et en Estonie, Ratu Sylvie Gayatri, a déclaré lundi 24 juin dans sa déclaration officielle que la mission d'introduction à la culture est toujours importante, d'autant plus que cette année est un moment spécial pour l'Indonésie et le Finlande qui célèbrent leur 70e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques. Tout au long des deux jours du festival, de longues files de visiteurs ont parcouru le quartier culinaire indonésien, notamment devant le stand de saté de poulet qui a réussi à conquérir le cœur des habitants de la capitale Helsinki. Outre les délices culinaires, la majorité des visiteurs se sont rassemblés sur la scène principale qui présente une variété de danses et de musique traditionnelle indonésienne. De plus, de nombreux visiteurs du festival ont également acheté des souvenirs et des objets artisanaux typiquement indonésiens, tels que du batik, de rotan tressé, des colliers et autres bibelots. L'IFF 2024 est devenu encore plus spécial grâce à la présence d'un contingent d'artistes venus directement d'Indonésie, à savoir une délégation du service culturel du DKI Jakarta et des représentants du gouvernement provincial du Kalimantan du Nord, du gouvernement de la résidence de Kutai Est, Kalimantan Oriental, la résidence de Minahasa et l'administration municipale de Tomohon, Sulawesi du Nord. Chaque délégation a amené des artistes et des arts traditionnels, divers objets d'artisanat, ainsi que la promotion du tourisme et du potentiel d'investissement dans leurs régions respectives. Outre les représentants du gouvernement régional, le festival a également été soutenu par un certain nombre de représentants du monde des affaires indonésiens. En tant qu'événement symbole de la collaboration entre l'Indonésie et la Finlande, l'événement auquel a participé près de 5000 visiteurs mettait également en vedette des représentants de musiciens locaux. L'Indonésie et la Finlande entretiennent des relations diplomatiques depuis 1954, basées sur des valeurs similaires de respect de la démocratie et du principe de durabilité. La Finlande est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie dans la région de l'Europe du Nord. La valeur commerciale entre les deux pays en 2023 a atteint 713 millions de dollars américains, soit 11,7 billions de rupias, soit une augmentation de 22% par rapport aux données de 2019. La valeur des échanges commerciaux au premier trimestre entre l'Indonésie et la Finlande a montré une augmentation jusqu'à 40% par rapport à la même période de l'année dernière. Ce chiffre a dépassé les niveaux commerciaux d'avant la pandémie. C'est Zurita, c'était la clé diplomatique pour ce soir. C'est Zurita, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 juin 1977. La République de Djibouti devient indépendante. Djibouti, dont le nom officiel est la République de Djibouti, est un pays situé dans le golfe d'Aden en Afrique de l'Est. Djibouti, anciennement connu sous le nom de Somalie française ou Afar et Issa, borde l'Érythrée à l'ouest, le Yémen au nord, séparé par la mer Rouge, la Somalie à l'est et l'Éthiopie au sud. Le pays constitue la porte d'entrée principale du commerce pour son voisin sans littoral, l'Éthiopie. Djibouti est un pays musulman qui participe régulièrement aux réunions islamiques et arabes. L'autre information est sur la commémoration de la journée de l'unité nationale du Tadjikistan. Après la séparation du Tadjikistan de l'Union soviétique en 1991, en mai 1992, une guerre civile éclata entre diverses factions du Tadjikistan et dura 5 ans. Le 27 juin 1997, le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, a signé un accord de paix pour mettre fin à la guerre civile. Le traité de paix est considéré comme l'un des documents historiques les plus importants du Tadjikistan, car il a non seulement mis fin à la guerre, mais a également permis au Tadjikistan de développer une politique plus démocratique. Jusqu'à présent, le 27 juin est célébré comme la journée de l'unité nationale du Tadjikistan et est un jour férié. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. En avril 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 27 juin comme journée des micro, petites et moyennes entreprises ou MPME. Cette détermination était basée sur la résolution A/RES/71/279 qui était coparrainée par 54 pays membres, représentant plus de 5 milliards de personnes pour sensibiliser à la contribution extraordinaire des MPME à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'arrière-plan de la journée internationale des MPME est basé sur une évaluation de la croissance et du développement des MPME dans le monde. Selon l'ONU, les MPME représentent 90% des entreprises, 60 à 70% des emplois et 50% du produit intérieur brut dans le monde. Les MPME ont le potentiel de transformer l'économie, d'encourager la création d'emplois et de promouvoir une croissance économique équitable si elles bénéficient d'un soutien adéquat. C'est le retour, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Jangan
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie, dont le titre est « Le gouvernement provincial de Kalimantan du Nord, le BRGM et la Banque mondiale ont planté des mangroves sur 344 hectares de terrain. » Le gouvernement provincial de Kalimantan du Nord, l'Agence de restauration de la taupe et des mangroves, ou BRGM, et la Banque mondiale collaborent pour restaurer et préserver l'écosystème des mangroves à travers des activités de plantation de mangroves selon un schéma sylvopêche couvrant une superficie de 344 hectares dans la région de Tanah Tidung. Le gouverneur Kalimantan du Nord, Zainal Apaliwang, a déclaré lundi à Tanah Tidung que la sauvegarde de l'écosystème des mangroves ne doit pas s'arrêter et doit continuer à agir ensemble pour préserver cette forêt de mangroves pour l'avenir des générations futures. L'activité de plantation de mangroves intitulée « Lancement de la plantation de mangroves du projet de mangroves pour la résilience côtière » ou M4CR a été réalisée dans le village de Sengkong, district de Sasayap Ilir, région de Tanah Tidung. Cette procession de plantation a été réalisée par le gouverneur de Kalimantan du Nord, chef de l'Agence indonésienne de restauration de la taupe et des mangroves, BRGM, Hartono, Franka Brun, spécialiste principal de l'environnement pour l'Indonésie et le Timor-Leste, Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique ou Banque mondiale. Ambroise Brenner, responsable de la gestion des ressources naturelles à la Banque mondiale, ainsi que divers autres parties. Cette plantation marque le début d'un effort majeur de restauration visant à restaurer l'écosystème de mangroves du Kalimantan du Nord et à accroître la résilience côtière au changement climatique. L'objectif du M4CR dans le Kalimantan du Nord consiste à planter 344 hectares de mangroves dans le village de Sengkong, le district de Sesayap Ilir, région de Tanah Tidung, en utilisant un modèle sylvopêche ou une combinaison de reboisement de mangroves et de modèles de culture halieutique. Cet effort de plantation de mangroves est un effort de lutte pour assurer la préservation des forêts de mangroves de la déforestation. Selon le gouverneur, chaque année, la superficie des mangroves indonésiennes continue de diminuer. Des efforts sont donc nécessaires pour les surmonter. Le chef du BRGM, Hartono, a expliqué que le gouvernement indonésien, à travers le BRGM, collaborait avec la Banque mondiale et d'autres partenaires pour mettre en œuvre le programme M4CR. Ce programme vise à réhabiliter les mangroves dans quatre provinces prioritaires, à savoir le Kalimantan du Nord, le Kalimantan de l'Est, Riau et Sumatra du Nord. Il expliquait que les principales composantes du programme M4CR comprennent le renforcement des politiques et des institutions de gestion des mangroves. En outre, la réhabilitation et la gestion durable du paysage des mangroves soutiendront la conservation nationale des mangroves couvrant une superficie de 700 000 hectares. Le prochain élément consiste à accroître les possibilités de subsistance des personnes vivant autour des mangroves. Cette composante soutient le développement de moyens de subsistance et d'entreprises durables dans le village ciblé afin de réduire les pressions de dégradation sur les forêts de mangroves et d'augmenter les opportunités de moyens de subsistance durables. Le dernier volet est la gestion du programme du fonds M4CR qui sera géré par l'Agence de gestion du fonds environnemental ou BPDLH en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Forêts, le BRGM, le ministère coordonnateur des Affaires maritimes et de l'Environnement ainsi que la participation des collectivités locales. Selon Hartono, ce projet est mis en œuvre dans quatre provinces, à savoir Riau, Sumatra Nord, Kalimantan Nord et Kalimantan Est. L'accélération de la réhabilitation des mangroves dans quatre provinces est également soutenue par l'aide financière de la Banque mondiale, afin que la réhabilitation de l'environnement côtier ne repose pas uniquement sur la PBN ou la PBD. C'est Juditar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. From Indonesia.
habisnya. Rasa cemburu juga gak ada habisnya. Selalu salah, meski gak salah. Gak perlu marah-marah, gak ada gunanya. Gak perlu ditangisi, gak ada artinya. Selalu salah, meski gak salah. Jangan pikir ku takut kamu sendiriku. Tak sedikit pun ku mau mikir dari itu. Jangan kira ku tak mampu tanpa kamu. Pantas sakit hati membuatku begitu. Perlu marah-marah gak ada gunanya. Gak perlu ditangisi gak ada artinya. Selalu salah, meski gak salah. Jangan pikir ku takut kamu selingkuh. Tak sedikit pun ku memikirkan itu. Jangan kira ku tak mampu tanpa kamu. Sakit hati membuatku begitu.
C'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, en voyageant vers la région de Kuningan, dans l'ouest de Java, vous pourrez déguster une variété de spécialités culinaires. Il existe du riz gluant fermenté, du tofu lamping, du ukap, du nasi kasreng, du rujak kangkung et bien d'autres. Cette fois, nous introduisons un plat culinaire typique de Kuningan appelé ukap, acronyme de tofu de sauce soja. Comme son nom l'indique, ce plat culinaire est à base de tofu et de sauce soja. Il a un goût savoureux, sucré et délicieux. Ces rites ukap se composent d'une assiette de morceaux de tofu et de ketupat arrosés de sauce soja rachid et garnis de sauce soja. Le kupa ou ketupat est un aliment à base de riz enveloppé dans de jeunes feuilles de cocotier tissées ou janur. Le kupa o ketupat est un peu différent. Habituellement, le kupa et ketupat qui est utilisé a une couleur plus foncée ou brunâtre que le ketupat ou kupat en général. Cette couleur est causée par le processus d'ébullition qui utilise d'abord de l'eau de paille. Plus tard, le tofu sera transformé en le faisant frire. Ensuite, le tofu est coupé en cubes irréguliers avec le ketupat. Après cela, le ketupat est versé avec une sauce au jarachit. La sauce au jarachit de Ukap est une sauce encore un peu rugueuse et texturée. La sauce est épaisse. La sauce au jarachit est l'une des clés d'un délicieux Ukap. La sauce au jarachit sur Ukap a un goût sucré et salé, dominant issu d'un mélange de piment rouge, d'oignon, de sel, de sucre javanais et d'assaisonnement à la levure. Ces rites, après avoir été arrosé de sauce au jarachit, le ukap est parsemé d'oignons frits. Ukap est généralement consommé avec des craquelins de nuit ou d'autres craquelins. Les habitants de Kuningan mangent généralement de ukap le matin comme menu de petit déjeuner. Ce délice culinaire est facile à trouver à Kuningan. Le prix est relativement abordable, autour de 10 000 à 15 000 rupiah par portion. C'est Zurita, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt. Thank you.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Rekan du Sudhart Enduro 2024 à Cilacap relance l'économie locale. Cilacap accueille l'événement international Rekan du Sudhart Enduro 2024. Cet événement de course de moto-trail est la sixième série qui se déroulera du 5 au 7 juillet 2024. Cet événement de tourisme sportif combine le paysage naturel de la région de la baie des Tortues Cilacap, qui est extraordinaire avec des itinéraires difficiles selon les normes internationales. Vincentius Jemadu, l'adjoint aux produits touristiques et aux organisateurs d'événements au ministère du Tourisme et de l'Économie créative, a déclaré que cet événement était très spectaculaire et devenu l'un des événements iconiques de la région de Cilacap. Le directeur général de Hiu Selatan Indonesia, Madame Diah Ayu Satyarini, a déclaré que la tenue du Rekan du Sudhart Enduro 2024 ou Hiu Selatan Hard Enduro 2024 aura un impact considérable sur le cycle économique entre l'impression, l'hébergement, la gastronomie, les destinations touristiques autour de la région de Cilacap. La sixième série d'événements de course de moto tout-terrain porte sur le thème « L'enduro dur le plus divertissant au monde ». La présence de cet événement devrait attirer 5250 participants de 23 pays, entre autres l'Espagne, le Mexique, le Canada, Andorre, l'Afrique du Sud, la République tchèque, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Iran, la Mongolie, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud, la France, Sri Lanka, Singapour, le Vietnam, l'Australie et la Turquie. Trois catégories seront disputées lors de Rekan du Sudhart Enduro 2024, à savoir la classe internationale, la classe nationale et les aventures amusantes. La classe internationale se compose de deux types de courses, à savoir la classe pro, participée par 120 participants ayant déjà participé au championnat du monde Hard Enduro, et non pro a réuni 70 participants. Quant à la classe nationale, les participants de cette catégorie ont pris part au championnat national. Le nombre total de participants à la classe nationale était de 20 personnes. Et pour le cours d'aventure ludique, il y a 452 participants confirmés et ce nombre va encore augmenter. Rekan du Sudhart Enduro 2024 sera débuté par le Downtown Prologue à la baie des Tortues le 5 juillet, puis le High Climb, ou ce que nous appelons le roi de la rame indonésienne, et les compétitions d'enduro long et court enduro. Puis elle s'est terminée par une fête populaire. Le total des prix offerts atteint 565 millions de roupies, avec des prix supplémentaires tirés au sort pour des motos tout-terrain, des motos, des réfrigérateurs, des machines à laver et des vélos. Sesami setelah rubrik Indonesia Angkuler telah buat dari Indonesia di Fusada di Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Fariz RM. Chargé tard, Fariz Rustamunaf, ou connu sous le nom de Fariz RM, est un chanteur et auteur-compositeur indonésien. Le succès de son premier album intitulé Sakura, sorti en 1980, rend son nom célèbre. La chanson phare de cet album porte le même titre, à savoir Sakura, composée par Fariz RM et Jimmy Pais. Cette chanson est l'une des œuvres les plus célèbres de Fariz. C'est pourquoi de nombreux musiciens indonésiens ont réarrangé cette chanson. Sakura raconte l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de la mauvaise personne. En 2009, Sakura a été classée 9e dans la liste des 150 meilleures chansons indonésiennes de tous les temps du magazine Rolling Stone Indonesia, publié en décembre 2009. Bonjour, Joëta, voici la chanson de Fariz RM intitulée Sakura. Bonne écoute.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang ambunya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara.
Gracias. 精神を共に次第に全てを捧げ約束の言葉を固く心にたとえ何があろうとたとえ試練があろうとあなたの愛に生きるあなたと共に悲しみを乗り越えあなたに幸せと愛の望みを求め偽りもすでに遅く私はあなたに愛を信じあなたの全てをゆっくりと確かに心の平和を求め私は歩む
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.